Décryptage. Marion Kazanov.
Cette semaine, le Bitcoin, la plus populaire des crypto-monnaies, a frôlé les 100 000 dollars l'unité. Son cours s'est envolé après l'élection de Donald Trump à la présidentielle américaine, car ses propos sur les cryptos ont mis les investisseurs en confiance. Apparu dans les années 2010, même en 2009, pour le Bitcoin, ses devises numériques ont d'abord été accueillies avec beaucoup de méfiance. Aujourd'hui, elles pèsent lourd dans l'économie mondiale, tout en restant extrêmement volatiles. Que valent-elles aujourd'hui, ces crypto-monnaies? Sont-elles fiables, plus fiables qu'à leur début? On répond à ces questions dans le décryptage. Soyez les bienvenus. Et un invité en studio à mes côtés. Bonsoir Quentin Demey.
Bonsoir Marion.
Économiste enseignant à l'EDEC et co-auteur de 100 mots pour comprendre les crypto-monnaies aux éditions Gérezo. Je prononce bien ?
Parfaitement.
Alors tout d'abord, j'ai parlé, tout le monde parle de crypto-monnaie, mais ce n'est pas le terme tout à fait juste, je crois, parce qu'on ne peut pas dire que les cryptos sont vraiment des monnaies. Pourquoi ?
C'est très bien de revenir là-dessus. C'est vrai que souvent, d'autant plus en tant qu'économiste, on aime faire la distinction entre ce qu'on appelle traditionnellement une monnaie et des actifs. Donc souvent, le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galo, aime à le rappeler souvent, c'est que le Bitcoin et les autres sont des crypto-actifs et pas des crypto-monnaies. Pour une raison simple, c'est que traditionnellement, chez les économistes, on répertorie trois fonctions essentielles de la monnaie. La première qui est le moyen d'échange. Alors aujourd'hui, oui, le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies sont un moyen d'échange, mais elles ne répondent pas aux deux autres conditions. La seconde, c'est l'unité de compte. En fait, l'idée tout simplement d'une monnaie, c'est de pouvoir l'utiliser pour comparer les biens et les services en économie et dans des pays. Et la troisième fonction, c'est celle de réserve de valeur, tout simplement de pouvoir se constituer une épargne pour l'avenir. Et avec la volatilité des crypto-monnaies, évidemment, c'est la difficulté qu'on a pour les appeler réellement des monnaies.
Donc, par exemple, pour revenir sur votre deuxième point, quand on voit une maison, un loft à Paris, on peut difficilement dire ça vaut tant de bitcoin. On peut difficilement donner une valeur comparée avec une crypto-monnaie, c'est ça ?
En fait, la difficulté qu'on a, c'est dû à leur volatilité. C'est-à-dire que en 2020, une maison, ça peut valoir 100 bitcoin et 3 ans ou 4 ans plus tard, n'en valoir plus que 10. Alors certes, vous pourrez me dire, les monnaies, elles aussi fluctuent, mais beaucoup moins. Et donc, c'est ce qui nous permet d'être plus simple de les utiliser pour l'unité de compte.
Alors, on va continuer peut-être de vulgariser. On utilisera encore peut-être le terme crypto-monnaie dans l'émission, mais on a bien compris que ce n'était pas le terme tout à fait précis. Qu'est-ce qui fait qu'une crypto-monnaie marche, par exemple, qu'elle monte comme le Bitcoin ? À quelle logique elle répond, de logique de marché ?
La première logique, c'est celle de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que sur un marché, que ce soit sur les crypto-actifs ou tout autre marché, si on a beaucoup de demandes et une offre qui est limitée, évidemment, on va voir un prix qui a tendance à aller à la hausse. Et donc, c'est ce qu'on observe ces derniers mois sur le marché des crypto-actifs. C'est qu'on a une demande qui a explosé, on va le voir plus tard pourquoi, mais qui a forcément poussé le prix de toutes les monnaies à la hausse.
Mais toutes ne fonctionnent pas pareil. Le Bitcoin n'a pas les mêmes, fonctionne pas pareil que par exemple que l'Ether. Elles ont chacune un peu leur un fonctionnement différent.
Oui, complètement. Alors je dirais qu'elles ne répondent pas à la même chose, aux mêmes besoins. Donc le Bitcoin, vous l'évoquiez, c'est la première crypto qui est arrivée sur le marché en 2009, dont on ne sait toujours pas d'ailleurs qui est ou qui sont les créateurs, qu'on nomme sous le nom de Satoshi Nakamoto et dont on n'a pas l'identité exacte. Et elle, l'idée de départ, c'est d'avoir quelque chose d'entièrement décentralisé, plus contrôlable par les États, dans une logique, en 2009, on s'en rappelle, c'est après la crise des subprimes, donc on a cette idée que finalement les États peuvent pas vraiment nous protéger, nous consommateurs, des fluctuations économiques et des crises potentielles. Et donc, c'est dans cette idée-là que le Bitcoin est arrivé et qui répond à cette fonction-là. D'autres crypto-monnaies peuvent répondre à d'autres choses. Il y a des crypto-monnaies qui ont des simples intérêts de collection, si je puis dire. Il y en a qui sont même des mèmes, on appelle ça des meme coins, on en reparlera un peu plus. Bon, elles répondent toutes à des fonctions assez différentes, mais elles ont quand même cette logique, c'est-à-dire la logique de marché, de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que pour différentes raisons, on aura plus ou moins de demandes sur ces crypto-monnaies et c'est ce qui fera que leurs prix iront plus ou moins à la hausse.
Alors, on l'a rappelé, les cryptos ne sont pas vraiment donc des monnaies. Pourtant, le Salvador a décidé d'en faire de faire du Bitcoin sa monnaie officielle en 2021, pardon, en plus du dollar.
Je vends des leggings, pantalons, t-shirts. On fait aussi des tatouages et des piercings.
On accepte le bitcoin pour tout ça. Ça nous facilite les choses. Il y a des gens qui dépensent 30, 15 dollars. Parfois, on fait 100 dollars dans la journée en bitcoin.
Voilà, l'illustration avec cette vendeuse du Salvador, c'était dans un reportage RFI qui s'est mise à accepter les paiements en bitcoin. Mais très peu de Salvadoriens, au fond, aujourd'hui s'y sont mis. 88% ne l'avaient pas utilisé en 2023, par exemple. Donc, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que ça a changé quelque chose, au fond?
L'idée, au départ, pour le Salvador, c'est d'essayer de limiter l'impact que les États-Unis ont sur ce pays. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le Salvador utilisait et utilise toujours aux côtés du Bitcoin le dollar américain pour les échanges. Et donc, l'idée de son président, c'était de se dire, bon, on va essayer de limiter leur impact, leur influence et de pouvoir, au fond, s'émanciper. Mais une monnaie n'a d'intérêt que s'il est utilisé. Et donc, au fond, quand on a près de 90% de la population qui ne l'a pas vraiment utilisé, je dirais que l'impact, il est finalement limité.
Et ça a tenté aussi d'autres pays. Par exemple, la Centrafrique a tenté de lancer sa propre crypto, le Sangocoin, mais ça n'a pas pris. Pourquoi est-ce que des pays qui ont donc chacun des banques centrales qui régulent la monnaie, etc., pourquoi choisir de se faire eux-mêmes concurrence un peu, au fond, avec des actifs qui échappent aux principes de régulation? Est-ce que c'est un pari risqué?
Alors, c'est difficile à mettre en place et ça repose sur beaucoup de choses. Trump, d'ailleurs, en parlait récemment. Il ne considère pas que le Bitcoin ou que les crypto-monnaies soient des concurrentes au dollar. C'est d'ailleurs pour ça qu'il essaye et qu'il s'est plutôt montré pro-crypto en cette seconde mandature et pour les prochaines années à venir. La difficulté, elle est nombreuse. Il y a une difficulté technique et technologique à mettre en place cela. Et puis l'autre point, c'est tout simplement d'encourager la population à pouvoir l'utiliser avec les difficultés qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on le voit sur les taux d'utilisation des crypto-monnaies dans les pays. Tout le monde n'est pas encore prêt à cela. Tout le monde n'a pas encore géré la gymnastique mentale et la gymnastique technologique pour pouvoir l'utiliser. C'est ça qui fait que certains pays échouent à implémenter ces monnaies dans leur pays.
Alors, vous évoquez Donald Trump, on va l'écouter. Je présente mon plan pour garantir que les États-Unis vont devenir la capitale mondiale de la crypto. On va le faire, c'est ce qu'il déclarait cet été pendant sa campagne. Donc, je l'ai rappelé, après son élection, le Bitcoin a explosé. Il avait pris, je crois, 20 000 $ de valeur rien qu'en une semaine. Et justement, Donald Trump, lui, il est plutôt pour une politique de dérégulation pour favoriser ses crypto-actifs. Ça passe par quoi? Ça affaiblit pas, donc c'est ce que vous nous disiez, ça va pas pour autant, pour lui, affaiblir l'économie traditionnelle?
Non, parce que finalement, les actifs, aujourd'hui, les crypto-actifs, crypto-monnaies, elles répondent à d'autres besoins que ceux qui existent aujourd'hui et que ceux qui sont utilisés pour le dollar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit dans les phénomènes de marché, les crypto-monnaies sont utilisées, sont un actif qui est l'actif aujourd'hui le plus risqué sur le spectre des actifs qu'on peut connaître, plus risqué que les actions et plus risqué que d'autres valeurs mobilières et immobilières. Et à ce titre, finalement, en étant la capitale des crypto-monnaies, comme il le dit, il va pouvoir attirer des investisseurs spécifiques, particuliers, qui le font soit au détriment d'autres valeurs mobilières, soit en complément. Et donc finalement, on ne va pas avoir de cannibalisation entre le Bitcoin et le dollar ou les crypto-monnaies et le dollar, mais on va pouvoir compléter le dollar et compléter l'offre que proposeraient les États-Unis.
Alors vous parlez des risques, mais pourtant, est-ce qu'il y a vraiment des risques à investir dans le Bitcoin? Parce qu'on voit, cette principale crypto, elle évolue en cycle. C'est une hausse, puis une baisse, parfois assez vertigineuse, certes, mais il finit toujours par remonter encore plus haut. Et là, il a frôlé les 100 000 dollars. Donc si on est patient, est-ce qu'il n'y a pas de risque à prendre? C'est devenu une valeur sûre?
Alors non. Et je le recite parce qu'on l'a accueilli lors d'une conférence, aux conférences Soufflant, on a accueilli le gouverneur de la Banque de France, on a évoqué ce sujet sur les crypto-actifs. Comme il aime à le rappeler, et même si je suis plus modéré, le Bitcoin est un actif risqué, très risqué, il faut le connaître. Effectivement, on a, si on le regarde sur le long cours, plutôt une progression. Hein, on se rappelle sa création en 2009, évidemment, moins de 1 dollar le Bitcoin. Puis il a passé certains steps. Le 100 dollars ont été touchés en 2013, puis 10 000 dollars en 2018. Et puis ensuite, on a eu ces évolutions-là. Mais le risque que l'on a finalement, c'est des risques de volatilité forte où en fait finalement, les investisseurs qui ne sont pas aguerris, qui ne savent pas s'y prendre, ne savent pas quand acheter, ne savent pas quand vendre. Et si on regarde ne serait-ce qu'au niveau de cette année, en 2024, on a un Bitcoin qui démarre l'année à 40 000 dollars en janvier, puis il augmente jusqu'à 65 000 dollars en juin, diminue à 48 000 dollars en septembre, et puis là, atteint son niveau historique autour de 95 000 dollars. Donc en fait, finalement, quand on voit ça, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'investisseurs, s'ils ne savent pas et s'ils n'ont pas, cette expérience de la bourse, ils vont pouvoir perdre de l'argent et laisser des plumes, comme on dit.
Ça veut dire qu'ils vont paniquer en voyant le cours s'effondrer, c'est ça, et réagir trop vite ou mal gérer leur portefeuille ?
Oui, complètement. Et c'est des phénomènes qu'on observe d'ailleurs. Il y a des indices qui sont sur les marchés qui permettent justement de mesurer est-ce qu'on est dans des situations plutôt de crainte ou des situations plutôt d'euphorie sur ces marchés.
Donc on peut spéculer sur les crypto-monnaies, comprendre si ça va monter ou pas ?
Oui, il y en a beaucoup. Alors, les crypto-monnaies, elles réagissent à différentes influences, si je puis dire, que ce soit géopolitique, politique, d'un point de vue national, européen, américain ou international. Et donc, à ces égards-là, on peut essayer d'anticiper le cours de ces crypto-monnaies.
Ouais, est-ce qu'elles ont toujours été sensibles justement à ces changements géopolitiques ? J'évoquais donc l'élection de Trump. C'est au quart de tour, elles peuvent exploser ou s'effondrer au moindre changement politique ou la moindre élection.
Alors, la difficulté qu'il y a, je dirais, même un cran avant, et c'est ce qui a beaucoup perturbé les investisseurs au départ, c'est que contrairement à toutes les places boursières du monde, les crypto-monnaies n'ont ni date d'ouverture, ni heure d'ouverture, ni heure de fin. C'est-à-dire qu'elles sont échangeables sur les marchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc à cet égard-là, on a des phénomènes qu'on connaît un peu dans la crypto-monnaie, à la fois d'évaluation ou de dévaluation des actifs selon les horaires dans la journée pour nous, Européens, quand le marché américain se réveille, quand le marché asiatique se réveille également. Donc, on a des évolutions qui sont très fortes, bien plus fortes que tous les autres actifs. En fait, c'est ça qui est aussi très important à comprendre, c'est que sur une seule année, on peut, je pense notamment aux autour des années 2021-2022, on peut avoir une capitalisation boursière qui fait x3. Donc, on passe de 1 000 milliards de dollars, ce qui est quand même assez significatif, à 3 000 milliards de dollars. Et dans la même année, repartir de 3 000 milliards à 1 000 milliards. Donc, en fait, on a x3 divisé par 3 dans la même année. C'est quelque chose qui n'est absolument pas commun et qui est très spécifique à ce secteur-là.
Oui, qu'on ne voit pas sur les marchés traditionnels. Alors, il y a aussi, par contre, les stable coins. J'espère que je prononce bien. C'est une devise censée être plus stable, comme l'indique son nom, car elle se base... sur des devises classiques comme le dollar, comment ça fonctionne exactement ? Est-ce que ça, c'est plus sûr ?
Alors, le principe du stablecoin, c'est tout simplement d'être indicé, d'être indexé sur une monnaie nationale. Donc, en général, la monnaie reine dans ce monde est toujours le dollar, donc c'est souvent sur le dollar. Donc, on a des monnaies telles que ce qu'on appelle l'USDT, qui est proposé par l'entreprise Tether, l'USDC, qui sont des monnaies, donc des crypto-actifs, des crypto-monnaies. Donc, leur fonctionnement se base de la même manière que le fonctionnement du Bitcoin et d'Ethereum, c'est-à-dire sur une blockchain, mais par contre qui réplique trait pour trait ce que va faire le dollar. Et donc, du coup, on va avoir une monnaie qui est tout à fait stable, mais qui n'a pas d'intérêt d'investissement. Il n'y a aucun intérêt puisqu'on sait qu'un USDT vaudra toujours un dollar. L'intérêt que ça a, par contre, c'est pour les échanges dans les crypto-monnaies et pour se constituer une réserve pour être prêt à investir sur d'autres crypto-monnaies qui, elles, ne vont pas être capées ou indexées sur le dollar.
D'accord, donc là, pour le coup, pour utiliser des stable coins, il faut être très... s'y connaître en crypto-monnaie, parce que c'est pas avec ça qu'on va s'enrichir comme ça.
Oui, en fait, je dirais que c'est plus un outil. C'est quelque chose qui vous aide, qui vous permet de transférer vos valeurs de crypto-monnaie en une valeur stable, si vous voulez attendre pour investir sur un marché, attendre quelques mois par rapport aux annonces qu'on évoquait tout à l'heure, et qui vous permettent d'être sûr de ne pas prendre de risque d'avoir une volatilité forte, puisqu'on est indexé sur le dollar.
Alors, peut-être citer une autre crypto-monnaie qui s'est envolée aussi après l'élection de Trump, c'est le Dogecoin, plus ou moins lié à Elon Musk. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, oui, le Dogecoin... Effectivement, Elon Musk a été un de ses grands promoteurs il y a déjà plusieurs années. Bon, le Dogecoin s'est été créé aux alentours des années 2013, donc évidemment après le Bitcoin, mais avant l'Ethereum, puisque l'Ethereum a été créé en 2015. L'Ethereum, pour rappel, c'est la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. L'idée quand même du Dogecoin, c'est plutôt quelque chose de parodique du Bitcoin. Vous voyez l'image du Dogecoin, c'est un chien dont la race est Shiba Inu. Voilà, l'idée de départ, c'est une parodie de Bitcoin, c'est d'avoir quelque chose chose d'assez drôle. Ça peut être utilisé dans certains cas pour des œuvres caritatives. Ça a été utilisé pour investir sur certaines choses. Mais c'est surtout le soutien d'Elon Musk qui a fait que cette monnaie a été vraiment connue et qui a explosé. Et d'ailleurs, à cet égard, Elon Musk a été plusieurs fois rattrapé par la patrouille, si je puis dire, justement pour des risques de manipulation de marché, puisqu'il arrivait avec un tweet à faire exploser le cours du Dogecoin. Donc ça, ça a été arrivé il y a déjà quelques années. En une semaine, il avait réussi à faire augmenter le Dogecoin de plus de 100%. Et c'est évidemment, maintenant qu'on a eu Elon Musk qui soutient ouvertement Donald Trump et que Trump annonce comme faisant partie de son gouvernement dans les semaines à venir, bah, qui a aussi explosé. La semaine suivant l'élection de Trump, le Dogecoin, il a pris plus de 100% en une semaine.
Même s'il faut raison garder, parce que je crois que ça vaut quand même pas très cher, ces quelques centimes de dollars, ou c'est pas, on n'est pas du tout du niveau du Bitcoin.
Non, complètement. On est à 30 centimes d'euros, ouais. 30 centimes de dollars. Mais par contre, en termes de capitalisation, il fait quand même partie des 10 plus grosses crypto-monnaies, puisqu'en fait, il n'y a pas de quantité limitée sur le Dogecoin, contrairement au Bitcoin.
Est-ce qu'on sait combien pèsent les cryptos sur l'économie mondiale, sur le marché, sur les marchés ?
Oui, les crypto-monnaies, c'est autour de 3 400 milliards d'euros aujourd'hui. Alors, c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, j'intervenais chez vos confrères de France Info. Et à l'époque, on était, je parle de ça, on était début octobre, on était autour de 2 100 milliards. Donc, vous voyez l'explosion que ça a eu entre en l'espace de moins de 2 mois.
Oui. Et ça va comment, est-ce que ça va continuer justement à s'envoler ? Parce que certains experts disent d'ailleurs que le Bitcoin pourrait s'envoler. Je crois même dès l'année prochaine, je ne sais plus les chiffres que j'ai vus, mais jusqu'à 300 000 dollars. Est-ce que pour vous, c'est un chiffre réaliste ?
Alors, les valeurs les plus folles sont annoncées, en effet. On voit 200 000, 250 000, 300 000, 500 000 et même certains parlent d'un million.
Oui.
Bon, mon avis, il est que finalement, et c'est ce qu'on observe en ce moment, on va avoir un cycle qui est effectivement à la hausse, puis on a une stabilisation. On risque d'avoir une petite correction dans les semaines à venir parce que Trump va prendre son mandat en janvier. Probablement qu'on verra que l'impact n'est pas si prégnant, que ça a été plutôt un effet d'annonce et que finalement, cette information, elle a été enregistrée par le marché. Donc, toutes les annonces autour de Trump qui va être pro-crypto, qui voulait notamment virer le président de la SEC. Donc, la SEC, c'est l'autorité des marchés américains qui était plutôt anti-crypto et donc que Trump avait promis de virer, qui finalement a pris un peu les devants en démissionnant. Tous ces effets d'annonce ont été pour moi intégrés par le marché, ce qui fait que les prochains mois seront plus à la stabilisation qu'à une explosion supplémentaire, sachant que, oublions pas qu'on a démarré à 40 000 dollars en janvier 2024.
On n'a pas parlé d'un autre problème lié à la crypto, c'est son bilan carbone, qui n'est pas terrible parce que ça consomme beaucoup d'énergie, mais certaines moins que d'autres. Le Bitcoin, en revanche, consomme pas mal d'énergie, mais j'ai vu que l'Ethereum, les méthodes liées à leur vous allez mieux expliquer que moi aux transactions sont selon les monnaies plus ou moins énergivores.
Oui, alors pour essayer de simplifier au maximum, disons que le Bitcoin, lui, est basé sur ce qu'on appelle la preuve de travail, qu'on appelle proof of work en anglais, qui, pour faire très simple, pour valider les transactions, on s'appuie sur la puissance de calcul d'ordinateur. Donc, il y a des machines qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour valider les transactions sur le Bitcoin.
Et pour l'Ether.
Et c'est ça, en fait, qui est finalement est énergivore, puisqu'on a des centaines, des milliers, des millions de machines qui tournent pour pouvoir valider. L'Ethereum, lui, fonctionne sur ce qu'on appelle la preuve d'enjeu, qui est un fonctionnement différent, qui a changé d'ailleurs, puisqu'au départ, il était lui aussi en preuve de travail, il a basculé en preuve d'enjeu. Et ce fonctionnement-là, lui, est moins énergivore. Alors après, j'aime bien rajouter souvent deux choses. Il faut le mettre en regard de ce que font d'autres industries, même l'industrie bancaire et financière à ce niveau-là. Et puis, le Bitcoin, aujourd'hui, trouve des solutions pour essayer d'être moins énergivore.
Merci, Quentin Demey, économiste, enseignant à l'EDEC et co-auteur de 100 mots pour comprendre les crypto-monnaies aux éditions Gérezo. Merci d'avoir fait l'effort de vulgariser un peu pour nous ce monde des cryptos. Merci également à Fabrice Viollet qui était à la réalisation ce soir. Dans quelques secondes, place au débat sur RFI.